Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, pour l'interview, nous nous consacrons à Deux Fermes en Ferme, l'organisation festive sur deux jours, le 27 et 28 avril 2019, dans la Drôme, et qui s'appelle Deux Fermes en Ferme. Donc, ça sera un périple organisé à travers la Drôme et certains pays comme le Diwa, la Gervanne et aussi la Roanne. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Raspail. Bonjour.
Bonjour.
Alors Frédéric, vous êtes le représentant du domaine Jean-Claude Raspail. Votre principale activité consiste en quoi ?
Alors en fait, je suis Frédéric... Le fils de Jean-Claude, hein, en fait, j'ai repris l'exploitation familiale qui était née à 4 générations par mon arrière-grand-père. Et on produit de la clairette de Die, du crément de Die et aussi une palette de vin tranquille, donc des chardonnays, des syrahs en vin tranquille.
Alors, c'est une entreprise familiale, on peut dire, qui a pris naissance à quelle époque ?
Alors, c'est mon arrière-grand-père qui a en fait lancé la première pierre, je dirais, parce qu'à la fin de sa carrière, il était agriculteur, hein, il faisait de la lavande, des céréales et des fruits. Et puis, il a acheté une première vigne parce que son épouse était restauratrice à Saillant. Face à l'église, il y a le restaurant Le National. Et il s'était dit que c'était bien d'avoir du vin rouge pour le restaurant. Et comme ça, il a acheté la première vigne. Et ensuite, mon grand-père a été aussi dans la polyculture. Il faisait de la lavande. Il faisait aussi un peu de charbon de bois sous les trois becs. Et puis, lui, il a acquis quelques vignes en plus. C'était l'essor de la clairette de Die dans les années 40-42. Après-guerre aussi. Donc, il a compté 3 hectares de vignes. Voilà. Et ensuite, mes parents ont repris en faisant un peu de fruits au départ parce que la pêche de Saillant était assez développée et renommée. Ils faisaient un peu de prunes aussi, et puis dans les années 80, ils ont arrêté les fruits et augmenté la surface en vigne jusqu'à 12 hectares. Voilà. Et moi, j'ai fait des études d'œnologie en Champagne. J'ai appris mon métier à l'école de Champagne. Je suis allé aussi faire des stages dans des caves de Champagne. Et en 97, à mon retour, nous avons passé le domaine en bio sur la totalité. Voilà. Nous avons un peu moins de 15 hectares. Et nous élaborons nos clairettes uniquement à partir de nos vignes. Nous ne faisons pas de négoce, pas d'achat de raisins. Tout ce qui est produit vient de nos vignes.
La vigne pour la clairette nécessite quel type de plantation ?
Alors, pour la clairette de dite tradition, la plus répandue, c'est le muscat, 75% au minimum, et 25% de clairette au maximum. Donc, on peut aussi obtenir des clairettes, d'ailleurs, pure muscat. Donc plus il y a du muscat, plus elles sont parfumées. Le muscat apporte le côté aromatique, fruité, les arômes de fruits blancs, les arômes exotiques de litchi. Et la clairette apporte la fraîcheur, la légèreté.
Vous vous êtes consacré à l'agriculture bio dans votre exploitation. Quelles en sont les retombées aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez avoir bien géré l'enjeu ?
Oui, alors la démarche n'était pas commerciale puisque mon père a toujours fait de la vente directe et nous n'avons jamais eu trop de vignes par rapport à ce que l'on savait commercialiser. Je crois que l'enjeu, il est aussi là, de ne pas surestimer sa surface par rapport à sa clientèle. Voilà. Donc la démarche était de produire sainement, de ne pas apporter, de pas travailler avec des produits chimiques parce que les agriculteurs, on est en première ligne aussi avec l'utilisation de pesticides et d'insecticides. Donc voilà, l'enjeu, il est une fierté d'abord, et puis il est reconnu effectivement de plus en plus. Depuis 5 ou 6 ans ou une petite dizaine d'années, effectivement que le consommateur s'intéresse à ces enjeux-là. Effectivement, il se dirige en priorité maintenant de plus en plus vers des produits bio. Mais bon, après, nous, on insiste aussi sur un bio de qualité et artisanal.
Lors de votre réponse, Frédéric, Claire vient d'arriver donc au studio et vous, vous êtes pour représenter Rimon et Saveur, hein, qui participent aussi à De Ferme en Ferme.
Oui, tout à fait, oui.
Vous étiez déjà venu l'année précédente, hein. Vous êtes plus dans la confection de pâtes, entre autres.
Alors nous, on a plusieurs activités, on a un élevage de brebis, donc on a de l'agneau, et puis ensuite on fait de la lavande et on fabrique effectivement des pâtes sèches à partir de nos céréales.
Quel est pour vous l'engouement et l'enjeu de cette organisation de ferme en ferme? Est-ce que les années précédentes ont amené leurs fruits dans votre exploitation?
Alors pour moi, ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est vraiment la rencontre avec les personnes qui viennent voir comment on travaille, quoi. Le fait de venir sur place, sur la ferme, ça explique des tas de choses par rapport à nos produits et à la façon dont on les fabrique, en fait. Donc ça, c'est vraiment très riche et on s'aperçoit après que quand on recroise des gens sur les marchés, dans des magasins de producteurs, etc., ils sont marqués par la visite qu'ils ont fait sur la ferme.
Vous allez proposer certainement la visite de votre activité?
Oui, alors comme toutes les fermes, en fait, lors de cette opération, il y a vraiment une obligation de faire la visite de l'ensemble des activités de la ferme. Donc nous, effectivement, on fait un circuit qui montre tous les différents aspects de notre ferme.
On va revenir à Frédéric. Vous êtes donc sur la clairette, certains vins. Est-ce que pour vous, il y a encore beaucoup de choses à faire pour une reconnaissance de l'exploitation dite bio?
Nous, en fait, notre travail en bio consiste à aussi élever la qualité et la notoriété de l'appellation. Par ce biais-là, on est toujours en recherche de reconnaissance, parce que c'est une appellation qui fait beaucoup d'efforts en termes de qualité. Elle a des très beaux terroirs, de beaux paysages, et elle est assez méconnue. Voilà, donc par le biais de ferme en ferme, justement, les consommateurs élargissent leur circulation, leur cadre habituel, et donc redécouvrent nos territoires.
Claire, pareil aussi, vous ressentez vraiment un intérêt du public pour le bio, et quel est le public qui vient vous visiter? Je poserai la même question à Frédéric. Quel est le public qui vient? Uniquement des consommateurs ou alors des personnes qui sont peut-être en recherche d'activités futures ou de retrouver des repères peut-être?
On est quand même beaucoup sur des consommateurs, mais par contre un panel très varié de consommateurs, en fait. Des gens qui sont traditionnellement attachés à une agriculture de terroir, mais effectivement des gens qui sont aussi sur tout ce qui est agriculture durable, voilà, avec respect de l'environnement. Donc c'est vrai que dans notre ferme, comme chez Frédéric, on est en bio, donc c'est un label qui assure les choses. Mais globalement, quand même, les fermes qui participent, même celles qui ne sont pas en bio, sont normalement dans une agriculture à échelle humaine, quoi.
D'ailleurs, la certification bio paraît insurmontable pour beaucoup de jeunes entreprises ou jeunes exploitations, parce qu'il y a des critères coûteux, je pense. Non, comment ça se passe pour vous?
Pour moi, c'est pas forcément le premier frein, hein. C'est, par exemple, en vigne, c'est pas forcément la certification. Après, c'est aussi une organisation, tracée, la traçabilité, aussi bien en vigne qu'en cave. Il faut dire aussi que c'est aussi plus d'heures en termes de travail dans les vignes et puis des efforts aussi un peu plus physiques. Parce que même si le matériel a progressé, on a des charrues intercepts qui vont biner entre les pieds. Il ne reste que... on a souvent du dévers, des sols pas toujours faciles dans le Diois, donc il faut sortir la pioche aussi. Donc c'est aussi difficile pour certains de s'imaginer reprendre la pioche, mais je pense que c'est l'avenir, hein.
Claire, pareil, hein, vous avez cette même contrainte du retour à l'outil traditionnel avec le bio?
Alors, en fait, comme Frédéric, nous, on est en bio depuis quand même de nombreuses années. Donc, c'est vrai que la contrainte, on l'a largement intégrée. Donc, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Mais je suis assez d'accord pour dire que ce n'est pas une histoire de coût, je pense, le fait de ne pas passer en bio. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que le travail est peut-être plus pointu. Et il y a aussi le facteur risque. C'est-à-dire que le jour où il y a un pépin, une maladie, un insecte, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le moyen de lutter, et des fois c'est un petit peu, pour certains, ça peut être quand même un vrai frein au passage en bio, quoi.
Justement, l'agriculture bio dite par respect de la nature, est-ce que dans les produits que vous utilisez, qui émanent de production naturelle, pensez qu'il n'y a pas toujours la plante qui pourrait contrecarrer telle épidémie ou tel insecte?
Alors là, je pense que c'est un peu différent sur nos deux cultures, parce que nous, on est vraiment dans une ferme qui est en polyculture élevage. Donc en fait, on a la chance d'avoir des cultures qui se succèdent sur différentes parcelles. Et donc c'est une façon, toute la technique de la rotation des cultures, c'est une façon de lutter contre des maladies ou des infestations. Donc ça, c'est vraiment après tout un itinéraire technique et des connaissances qu'il faut avoir, quoi. Mais ce n'est pas du tout insurmontable. Après, sur une culture plus...
installée, ouais. Comme la vigne. Effectivement, de toute façon, le climat devient un petit peu caractériel. En fait, soit on a beaucoup d'eau, soit beaucoup de chaleur, du gel, comme on a eu un petit peu la crainte cette semaine. Notamment donc 2018, qui est une année très, très humide au départ. Et c'est vrai qu'en vigne, on a eu... un petit peu peur avec le mildiou, mais je pense qu'en bio, on s'en est aussi bien sorti, même des fois qu'en conventionnel, tout simplement parce qu'on est aussi habitué à surveiller beaucoup plus son vignoble, à passer plus régulièrement dans les vignes. Et puis, avec des plantes, on contrecarre assez bien les maladies et aussi les phénomènes de résistance. Les molécules chimiques, on le sait, sont efficaces des fois 2 ou 3 années. Et puis, des fois, en conventionnel, il y a des bonnes surprises parce que le mildiou s'est acclimaté à ces molécules.
La production que vous en avez de vos entreprises, vous arrivez à les écouler sur des circuits courts, sur l'économie solidaire, plutôt l'économie circulaire?
Nous, on travaille essentiellement en circuit court. Donc, c'est vraiment de la vente directe aux particuliers, beaucoup avec des magasins de producteurs. Et après, quelques fois en marché, mais c'est essentiellement... Après, on a quelques revendeurs, mais c'est très, très peu. Et c'est des petites épiceries qui sont vraiment en recherche de petits producteurs comme nous, quoi.
Vous arrivez à fournir la demande de votre part?
Alors, de toute façon, nous, c'est bien simple. On est en montagne, on a une ferme avec les terres qui sont disponibles. Donc, en fait, notre objectif, c'est de travailler comme il faut les terres qu'on a, de produire les produits qu'on peut produire et après de les écouler. Donc c'est vrai qu'on arrive à produire, à écouler ce qu'on produit. Après, on ne cherche pas à grossir davantage de toute façon. C'est l'échelle, c'est la taille d'entreprise et de ferme qui correspond au lieu où on est, quoi.
On peut rappeler aux auditeurs, Rimont et Saveur sont situés dans quelle localité?
À Rimont et Savel. Donc Rimont et Savel, c'est un des petits villages perchés de la vallée de la Roanne, au-dessus du village de Saint-Benoît-en-Divois.
Et pareil, pour Frédéric Raspail, votre localité, c'est...
Alors, Saillant, qui est historiquement très riche dans la culture de la vigne, puisqu'on a retrouvé des vignes romaines. Et une cuverie romaine, il y a 4 ou 5 ans, en faisant des fouilles sur le village, c'est un terroir très adapté à la vigne, parce que assez bas, assez doux, et comme on peut le voir quand on passe, c'est une cuvette. Voilà, donc notre commercialisation se fait à 60% à la propriété, donc en direct. Et ensuite, ce sont des magasins de producteurs, des magasins biologiques, épiceries fines, des restaurants. Et nous exportons entre 8 et 10% de la production.
Pareil pour vous, je crois, Claire. Vous fournissez des restaurateurs?
Alors, pas de restaurateurs, mais des cantines, en fait. Quelques collèges du département, en fait.
Comment se passera une journée, par exemple, au domaine Jean-Claude Raspail?
Alors, donc nous accueillons les visiteurs et puis dans le hall d'accueil, il y a déjà des vieux outils, des vieux pressoirs. Et lorsque les gens ont fait un petit peu le tour du caveau, nous descendons en cave. Nous sommes trois pour faire les visites. Donc on passe par le pressurage. D'abord, il y a une petite explication évidemment sur nos vignobles, la façon de les travailler. Le pressurage, le chai, la cuverie. Et là, on va détailler parce que les gens connaissent un petit peu la vinification dans la globalité. Mais c'est vrai que chez nous, les vins effervescents, c'est quand même beaucoup plus complexe. Donc, on explique la différence entre la clairette de Die, méthode ancestrale, et le crément, méthode champenoise. Voilà. Et ensuite, ils passent à la pratique, on leur offre une dégustation de nos vins. Voilà.
L'année dernière, Claire, je vous avais posé la question si vous alliez développer d'autres produits à présenter ou à proposer au public ou aux clients.
Alors, on a deux, on est toujours sur les pâtes, mais effectivement, on a deux types de pâtes différentes. On a testé en fait les pâtes à la lavande, parce qu'en fait, c'était une demande qu'on avait de temps en temps. Donc, on a eu envie de proposer ça. Et puis, notre spécificité, en fait, c'est de travailler avec différentes céréales. Donc, on travaillait avec du blé dur, du petit épeautre, de l'épeautre. Et là, on a lancé une nouvelle pâte à partir de blé amidonier, qui est aussi un blé ancien et qui donne en fait une pâte avec un goût encore différent, quoi.
À votre connaissance, est-ce que vous vous êtes intéressé aux productions de pâtes ? Je ne sais pas s'il en existait sur le territoire comme vous faites. Et dans ce cas-là, est-ce que vous en avez gardé quelques recettes ou découvert quelques recettes ?
Alors, en fait, dans la région, on a été pas mal sur les pâtes fraîches, puisque c'est les ravioles. Hein, donc, c'est vrai que ça, il y avait cette tradition-là. Sur les pâtes sèches, en fait, on n'en trouvait pas trop par ici. On en avait pas mal en Auvergne. Et c'est vrai qu'on est reparti, notamment sur des blés anciens aussi, qui venaient aussi, qui sont de souche auvergnate. Parce qu'on a vu dans des livres que ces blés-là étaient assez prisés pour les pâtes, quoi.
Je pose la même question pour Frédéric. Suite à la décimation de la vigne en France, juste après la Première Guerre mondiale, quasiment toute la vigne avait disparu et les Américains ont pu fournir des nouveaux cèpes. Est-ce que vous vous êtes intéressé un peu à cette histoire ?
Alors, c'est vrai que la période préphylloxérique et puis la guerre ont fait disparaître les vignobles, mais c'est vrai que la chute du vignoble ancien est due au phylloxéra, notamment. Et c'est vrai que le surgreffage avec une partie souterraine américaine est un petit peu obligatoire parce que on a toujours la crainte de revoir arriver cet insecte qui a disparu. Par contre, il est important de greffer un bon plan par-dessus et d'aller soit sur des sélections massales, soit sur des clones qualitatifs. Et effectivement, si on veut avoir des produits de qualité, il faut se diriger vers des faibles productions, vers des productions de faible quantité, parce que c'est là qu'on va rechercher les arômes fruités. Les clones productifs, en plus, sont souvent beaucoup plus sensibles à la maladie. Voilà. Par contre, nous, on s'est réorienté vers des plantations de vin rouge, parce que sur Saillant, il y avait quand même une petite production de vin rouge renommée. Pendant la guerre, les négociants étaient sensibles à la provenance. Et lorsqu'il était de Saillant, il était reconnu. Donc nous, depuis 2008, nous avons planté des Syrah sur des anciens coteaux, des coteaux qui n'étaient plus travaillés depuis plus d'une centaine d'années. Très très pentu, on a remis de la vigne entre 30 et 40% de pente, des sols souvent pierreux, maigres, et là on sort des Syrah qui ont depuis 2 ans obtenu au concours mondial à Ampuy, donc le haut lieu de la Syrah, on a obtenu 2 médailles d'argent. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi passionnant de se diriger vers d'autres cépages et vers d'autres défis aussi.
Ça, c'est une question que je voudrais savoir. Les concours agricoles, c'est vraiment un tremplin pour un agriculteur. Et qu'est-ce qu'il en découle de cette distinction dans son entreprise ?
Après, je pense que ça va dépendre beaucoup des produits. Nous, on n'a jamais été sur ce type de... Enfin, sur des concours, alors que ce soit sur l'agneau où ça existe. Après, sur les pâtes, ça n'existe pas, parce que c'est vrai que je pense que les pâtes, c'est quelque chose d'un peu nouveau au niveau agricole. C'est quelque chose qui s'est... Voilà, nous, on a été les premiers à le faire sur le département en 2012, quand on a redémarré, personne ne le faisait. Donc c'est vrai que petit à petit, ça revient, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est réalisable. Mais je pense que ça dépend comment on fonctionne. Je pense que c'est effectivement sur les vins, il y a une vraie valeur ajoutée peut-être Frédéric leur dira plus. Mais nous, sur nos produits, on n'est pas dans cette démarche de concours. Notre satisfaction, en fait, c'est justement comment on fonctionne essentiellement en vente directe. C'est le retour du client, en fait. Quand les gens reviennent et nous disent qu'ils sont contents, ça nous suffit.
C'est le principal. Frédéric, quel apport amène une distinction de concours agricole ?
Alors c'est vrai que dans les vins, c'est un petit peu plus fréquent de concourir. Alors déjà, c'est une satisfaction à toute première. Je crois qu'elle est personnelle. Elle permet aussi de se voir où on se situe au niveau d'une production locale. Moi, c'est mon père qui avait commencé en 70 à peu près les premiers concours. Et c'est vrai que nos clients sont habitués. Donc chaque année, on se remet en question. Et du coup, ils sont curieux de savoir ce qui a été obtenu les années suivantes. Voilà. Alors maintenant, moi, je m'inscris plus faire des concours biologiques. Voilà. Mais effectivement, cette année, par exemple, on a eu la médaille d'or au concours bio de la vallée du Rhône à Avignon, voilà, sur un crément.
Comment ça se passe, un jury de concours, comment ça s'opère? C'est une dégustation, et sur quels critères sont données les appréciations?
Alors, par exemple, pour ce concours dont je viens vous parler, là, c'est ouvert aux professionnels, mais aussi amateurs avertis du vin. Et par exemple, à Avignon, les vignerons, comme moi, ne participent pas, bien évidemment, on ne peut pas être juge et partie. Nous envoyons nos échantillons. Ils sont évidemment mis dans l'anonymat. Et ce sont en général des tables de 4 ou 5 dégustateurs qui vont avoir des grilles de notation. Il n'est pas forcé d'y avoir une médaille d'or. Hein, c'est selon le niveau qualitatif du vin. Voilà. Là, on va concourir une nouvelle fois au mois de mai à Syrah du Monde. Donc, je fais 3-4 concours. Hein. On n'est pas non plus à la chasse absolument, parce que c'est vrai qu'il en existe des centaines.
J'avais posé la question l'année dernière sur l'aspect visuel ou l'esthétique du conditionnement. Y a des produits qui prêtent à confusion avec un aspect un peu ancien, mais qui sont pas forcément bio et loin de là même. Vous n'êtes pas dans cette contrainte. Vous n'en trouvez aucun intérêt d'avoir une contrainte d'un visuel de conditionnement.
Après, malgré tout, on s'aperçoit que c'est important. Quand vous êtes sur un marché, dans une foire, la présentation de vos produits, c'est aussi ce qui fait que les gens viennent vers vous, quoi. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Après, nous, on a fait le choix, par exemple, sur les pâtes, que le plus possible, on voit la pâte. Donc, en fait, c'est le produit lui-même qui fait son attractivité, quoi. Et après, avec des étiquettes qui restent quelque chose d'assez sympa, quoi. Mais voilà.
Et vous veillez tout de même à justement au recyclage de ces emballages. Comment ça se passe? Vous avez cette pensée-là pour le recyclage de l'emballage?
Alors après, ça, c'est un vrai souci. Parce que c'est vrai que, notamment quand on a démarré, nous, on était partis sur des boîtes entièrement recyclables, etc. Et en fait, sauf que ça a un coût. Et ce coup, le rapport au produit, il n'était pas évident. Et du coup, c'était un frein à l'achat, quoi. Parce qu'il y avait Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur du sachet plastique, polypropylène, quoi. Et apparemment, il se met des choses en place. Justement, là, on est en train de suivre ça. Il se met des choses en place pour aller même sur le recyclage de ces sachets-là. Donc ça, on fait attention à ça.
Vous pensez tout de même que certains clients seraient prêts à mettre un peu plus cher pour avoir un emballage digne de la nature ?
Ben, l'expérience nous a montré, nous, que non. Clairement, non, quoi, parce que, en fait, c'était un, enfin, le coût supplémentaire, il était un frein à l'achat, quoi.
Et au niveau de bon, la CIVAM, on peut peut-être parler un peu de la CIVAM, hein, ce qu'elle représente pour vous. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est la CIVAM ?
Ben, le CIVAM, c'est une association, hein, qui agit en fait pour tout ce qui est l'agriculture et l'animation du milieu rural, quoi. Donc, avec plusieurs types d'actions, hein, qui vont aller sur De Ferme en Ferme, qui est un peu le fer de lance, mais qui agit aussi beaucoup sur tout ce qui est projet autour de projet pédagogique, c'est-à-dire un peu tout ce qui est accueil d'enfants dans les fermes, travail avec des lycées, des écoles. Il y a tout ce qui est aussi autour de, enfin, qui participe à toutes les actions un peu qui se mettent en place, notamment dans la bio-allée, avec tout ce qu'il y a autour de l'alimentation, tout ce qui est circuit court, enfin voilà. Tout ce qui est un peu une dynamique autour du développement rural et durable.
Je reviens sur le recyclage. Frédéric, est-ce que vous pensez par rapport aux bouteilles il existe depuis peu une entreprise du côté de Chabeuil qui nettoie le verre, justement. Ça serait un gain économique pour des entreprises du coin ?
Alors, pour les vins tranquilles, je suis assez optimiste pour le recyclage. Par contre, pour les vins effervescents, je suis un peu plus inquiet ou un peu moins optimiste parce que donc nous, moi, mon père, quand il a commencé, récupérait les bouteilles en fait. Hein, donc, on avait évidemment du recyclage qui était plus développé que maintenant finalement. Mais malheureusement, on s'est aperçu que pour les vins effervescents, il y a une contrainte de pression et les bouteilles qui nous revenaient étaient souvent choquées. Alors, elle prenait des coups. Le verre garde mémoire de ces coups et visuellement, c'est pas forcément détectable. Et nous avions des taux d'explosion et même de dangerosité au niveau de la manipulation des bouteilles assez important. Donc, la clairette de Die, faut pas oublier, comme le crémant, les pressions dans les bouteilles peuvent être entre 4 et 8 bars. Et voilà, c'est quand même une contrainte qui va freiner le recyclage du verre. Alors, au niveau des producteurs, nous sommes financeurs, hein, du recyclage. Un organisme qui s'appelle ADELF, que nous apposons sur nos bouteilles, parce que nous payons, en tant que producteurs, une redevance. Effectivement, la sensibilisation est aussi l'autre levier pour que les gens trient. Bon, le verre est quand même pas trop mal trié par rapport au reste, hein, des déchets.
Claire, il y a un moyen de, mis à part cette organisation de ferme en ferme, hein, du 27-28 avril, est-ce qu'il y a moyen aussi de visiter votre activité tout au long de l'année ?
Alors c'est vrai que ça arrive régulièrement, hein, qu'on ait des demandes tout au long de l'année. Donc en général, bah, les gens nous appellent et puis dans ce cas-là, on prend rendez-vous et éventuellement, voilà, c'est tout à fait possible.
Voilà, et vos coordonnées sont éditées sur la oui. brochure. Hein. Et pareil, Frédéric, certainement, vous avez des visites au quotidien, de façon, sur vos exploitations.
Alors nous, notre cave est ouverte du 15 mars au 31 décembre, tous les jours, et pas plus tard qu'hier, donc dimanche, puisqu'on est lundi, j'ai eu des clients qui sont revenus et qui nous avaient connus lors de Ferme en Ferme il y a 4 ou 5 ans. Donc vraiment, ça fait plaisir et c'est vrai que chaque année, on fidélise de nouveaux clients. Et il ne faut pas oublier que Ferme en Ferme, c'est important pour toutes nos petites exploitations. C'est vraiment pas négligeable en termes de retour. Voilà, il faut que les visiteurs se mobilisent comme chaque année d'ailleurs.
Alors, pour les auditeurs aussi, nous avons de la part du CIVAM reçu 4 paniers garnis à faire gagner aux auditeurs. Je voudrais savoir si vous auriez une question propre à vous qui permette de faire gagner un panier à nos auditeurs.
Alors moi, la question, ça serait quels sont les cépages présents dans le crémant de Die?
Et donc, nous attendons une réponse des auditeurs sur les commentaires de l'émission qui sera affichée en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Et Claire, vous auriez une question sur les pâtes, par exemple?
Eh bien, puisque... est-ce que les auditeurs peuvent citer 3 des céréales avec lesquelles on fait des pâtes?
Voilà, deuxième question. Et puis, les paniers, vous y participez vous-même à la constitution. Comment ça s'élabore? Parce que je vois, c'est sur tout le territoire de la Drôme. Hein, donc, il y a des produits qui viennent de toute l'étendue drômoise. Et je ne connais pas forcément les secteurs.
Alors en fait, les paniers, hein, c'est très simple. C'est chaque participant à De Ferme en Ferme offre un de ses produits à l'organisation. Et donc, les paniers sont ensuite constitués à partir de ces produits, quoi. C'est vrai, ce qu'il faut rappeler, c'est que vraiment, l'idée de De Ferme en Ferme, c'est qu'on est vraiment sur des choses qui sont collectives. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé de nos fermes avec Frédéric, mais l'idée, c'est qu'on est vraiment au cœur d'un circuit et que les gens, en fait, dans la journée, ils vont aller visiter 3, 4, enfin voilà, plusieurs fermes pour effectivement voir la diversité de ce qui existe sur le territoire. Et je pense que ça, c'est super intéressant, notamment sur notre circuit d'Irwa, on a vraiment une variété au niveau des productions qui sont intéressantes, puisque je ne sais pas si vous avez cité les autres personnes du circuit, mais c'est vrai qu'entre la miellerie de l'abbaye du Vercors à Die, la distillerie des Quatre Vallées de Chamaloc, avec le fromage de chèvre de Arecoubeau et...
la ferme Mazdamban.
Le Mazdamban, et puis la ferme Craponne à Pont-de-Car. Enfin voilà, qui c'est que j'oublie? Les condiments de Véronica à Vacher-en-Quin. Voilà, on a vraiment un panel qui est intéressant et qui reflète un petit peu ce qui se fait aujourd'hui par chez nous, quoi.
Claire Lefranc et Frédéric Raspail, merci d'être venus nous parler de Ferme en Ferme, à laquelle vous participez. Et donc, vous serez ouvert au public les 27 et 28 avril prochains.
Oui, et puis on peut juste rajouter que sur la ferme de Craponne, chez Véronica à Vacher-en-Quin et donc chez nous à Rimont-Issavel, il y a possibilité de repas à midi. Donc voilà, et pour des repas complets, il vaut mieux réserver. Mais voilà, c'est vrai que c'est important aussi de le dire, quoi.
Donc le téléphone est sur le programme, hein, pour les auditeurs.
Ben, merci pour votre promotion.
Merci, oui.
Merci beaucoup.
Merci
et à bientôt dans nos fermes.
Oui, je vous remercie.
Venez visiter.
Si je peux. Bonne fin de journée en tout cas. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Estate piena era in quel giorno, partimmo col sole, ci ritrovammo pieni d'acqua attorno, e non era l'acqua del raggiunto mare, ma quella del cielo che nessuno può fermare. Di tutto avevamo paura, tranne quella di bagnarci. Poteva stopparci nello spogliaccio e tuffarci tra lampi, tuoni e pioggia, suoni di goccioloni. Chi poteva arrestare il furore delle nostre ribellioni? Danza acquatica, acqua di pioggia e di mare, non ci fecero così male. Danza acquatica, acqua di pioggia e di mare, ci fecero così male. Danza acquatica, acqua di pioggia e di mare, non ci fecero così male. Danza acquatica.